BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante numéro 284. Soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. L'insoutenable à Épinay-sur-Orge. Qu'est-il arrivé à la jeune Louise, 11 ans, retrouvée morte dans un bois de l'Essonne hier? Elle avait disparu à la sortie de son collège vers 15h15. Quelles sont les pistes envisagées? Quels sont les profils envisagés? L'effroi, le choc, l'émotion à Épinay-sur-Orge qui redoute la présence d'un prédateur. On va vous donner tous les infos, les tout derniers éléments dans un instant.
Les obsèques du petit Émile se sont déroulées hier dans le Var. Ses proches ont pu lui dire un dernier adieu, mais un mystère continue à planer sur cette affaire. Qu'est-il arrivé au petit Émile? Comment est mort le petit Émile Soleil? L'enquête peut-elle rebondir encore aujourd'hui après ses obsèques? On fera le point sur cette affaire dans la deuxième partie de notre émission.
Affaire saluante, ça commence tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Louise n'avait que 11 ans, 11 ans, et sa vie lui a été enlevée vendredi. Ce jour-là, elle finit les cours à 15h. Elle est sortie de son collège, André Mauroy, d'Épinay-sur-Orge, et elle s'est comme volatilisée. Son corps a été retrouvé hier à 2h30 du matin dans un bois de la ville. Un bois qui se situe à 1,2 km seulement de son collège. Alors que s'est-il passé vendredi après-midi à Épinay? Marion Russel, on vous retrouve. Vous êtes l'une des envoyées spéciales de BFM TV. Vous êtes dans ce bois où a été retrouvé le corps de la jeune Louise. Et nous n'avons en cette mi-journée que des questions autour de cette affaire.
Oui, beaucoup de questions. La première, forcément, c'est qui a pu commettre un tel crime? Deux personnes avaient été placées en garde à vue dans les premières heures de l'enquête, mais elles ont été relâchées hier soir sans poursuite, en tout cas pour l'instant. Alors les enquêteurs continuent leur travail pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer entre le départ de la jeune fille du collège jusqu'à donc ce bois, ou en tout cas si elle a fait une mauvaise rencontre, si elle avait rendez-vous avec quelqu'un. On est ici à seulement quelques centaines de mètres de son domicile sur un trajet qu'elle connaissait bien. Il va falloir auditionner notamment des témoins, exploiter aussi les images de vidéosurveillance. L'une de ces images montre la jeune fille sur un passage piéton à proximité d'ici, et c'est ensuite qu'elle s'est volatilisée. Alors sur place ici, là, les policiers sont de retour sur le secteur de ce bois où a été retrouvé le corps. Ça fait quelques instants seulement. Des policiers qui étaient présents forcément aussi au moment de la découverte du corps, où ils ont procédé à différents prélèvements, différentes analyses, et on le voit, l'enquête se poursuit. Une enquête qui peut être potentiellement longue et qui s'avère extrêmement minutieuse et qui visera aussi à rassurer les habitants, car pour l'instant, vous l'avez dit, le suspect ou la personne qui a commis ça n'a pas été arrêtée.
Marion Russel avec Caroline Bertolino, avec qui on suit évidemment cette enquête qui est toujours en cours. On va essayer de comprendre comment travaillent les enquêteurs, les hypothèses qui sont sur la table avec nos différents invités. Général François Daoust, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Mourad Batik, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avocat pénaliste au barreau de Paris. Et Pauline Revenat, la chef du service police-justice de BFM TV. Bonjour Pauline. Il y a énormément de questions. On a quasiment que des questions, Pauline, on peut dire ça, dans cette affaire ce matin.
En tout cas, on a le sentiment depuis hier soir, depuis la levée des deux gardes à vue, que l'enquête redémarre ou démarre à zéro, je ne sais pas quelle est la bonne expression. On reprend tout depuis le début, on reprend la chronologie, on reprend cette sortie de collège de Louise, on la voit sur ce passage piéton, il est 14h, la famille qui prévient les secours, les recherches, la découverte du corps à 1h50 dans ce bois des Templiers, et cette frise chronologique qu'il va falloir remplir entre la sortie du collège et cette découverte. Voilà, donc les enquêteurs, ils sont vraiment à pied d'œuvre, ils bossent comme des fous. Ils sont en train de chercher tous les indices possibles et inimaginables dans ce bois des Templiers. Ils font du bornage téléphonique, ils font de la cartographie, ils font tout ce qu'ils ont à leur disposition pour tenter d'identifier les auteurs qui courent toujours. Donc.
Alors on va reprendre évidemment l'enquête en cours, les éléments sur lesquels travaillent les enquêteurs. En général, vous êtes habitué à ce type d'enquête. Comment on travaille quand on a la disparition comme ça d'une jeune fille qu'on va retrouver très rapidement, d'ailleurs, dans un bois, blessée à l'arme blanche? C'est les seules informations pour l'instant dont on dispose de façon certaine.
Tout à fait. Et là, il faut savoir que toutes les unités de recherche, et en tout cas les de PJ, qu'elles soient de la police ou de la gendarmerie, vont travailler sur les plusieurs hypothèses. Et même s'il y avait un couple en garde à vue, ça n'empêchait pas des équipes de travailler sur d'autres hypothèses qui sont, est-ce que c'est dans l'environnement de la petite fille, différent au collège, un harcèlement dans un sens ou dans l'autre, un rendez-vous avec un amoureux dans le parc, tout ce qui est autour d'elle. Quelle est son activité, si elle a une activité sur des réseaux sociaux ou pas? Est-ce qu'elle a un téléphone? Et si oui, qu'est-ce qu'elle échange comme SMS? Donc, il y a une équipe qui travaille sur le plus près, autour de Louise. Il y en a une autre qui va travailler sur rencontre avec un prédateur, d'opportunité ou, au contraire, très organisé. C'est-à-dire, j'ai repéré, ça fait un moment que je suis, tout ce qu'il peut y avoir. Je m'aperçois que cette petite fille, eh bien, dans son parcours entre l'école et la maison, elle passe régulièrement par ce parc, ouais. Ce qui est possible, à vérifier également. Donc, là-dessus, c'est... Ces équipes travaillent comme ça au plus large, sur toutes les hypothèses, ce qui fait qu'on ne perd pas de temps en se focalisant sur les premiers et en oubliant les autres les hypothèses possibles, au risque de perdre des traces. Et on parlait tout à l'heure de bornage, et bien évidemment, il va y avoir les bornages et la vidéoprotection, les images du jour même, pour essayer de reconstruire. Et si elle a un téléphone, c'est le repérer. Et si on repère pendant tout ce parcours un autre numéro qui l'accompagne, ou qui est un stationnaire, par exemple, au parc, eh bien, ça peut être déterminant. Mais on va faire mieux. C'est-à-dire que les enquêteurs vont demander sur plusieurs semaines avant tous les parcours de la petite fille, puisque la loi permet de garder les images pendant 30 jours.
On va reprendre les anciennes images de vidéosurveillance des derniers jours.
Voilà. Et même chose
pour le trajet modifié ou pas.
Exactement.
Et s'il y a un élément extérieur qui l'a amené à modifier le tracé initial
par exemple. Et même chose pour le bornage. Est-ce que on a toujours le même suivi ou il y a un autre téléphone qui l'accompagne? Donc on voit que c'est un travail de fourmi parce que les données, une fois que les réquisitions sont faites pour les bornages, ce sont des données brutes. Donc il faut les reclasser, les identifier, les remettre dans le temps et en plus les remettre en situation, c'est-à-dire sur le terrain, à quel endroit ça pourrait se situer. Et on sait que dans une ville, c'est un peu compliqué, entre les échos et les bornes, quand elles sont saturées, eh bien c'est une borne qui est beaucoup plus loin, qui va prendre la connexion pour permettre aux personnes de pouvoir continuer de téléphoner ou d'envoyer des SMS. Donc il y a tout ça à reconstruire. Il y a un travail de police technique et scientifique en matière de numérique qui est colossal. Et là, on a son corps, c'est-à-dire il y a le travail classique de criminalistique, ouais. Avec l'ADN, la typicité des blessures, voire...
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, une enquête, c'est une équipe d'enquêteurs avec des femmes, des hommes, qui doivent avoir deux cerveaux dissociés, puisque pendant que ces deux jeunes sont en garde à vue, il ne faut pas que toute l'équipe se dise « bah c'est bon, on les tient, on a nos clients, on s'arrête là ». Il faut qu'une équipe oublie ce qui est en train de se passer pendant la garde à vue et qu'une autre équipe se dise « mais ne lâchons rien, ne perdons aucune minute ». Il faut aussi qu'on continue à travailler sur d'autres pistes. C'est peut-être pas ça. D'ailleurs, c'était pas ça. Puisque ces deux jeunes sont sortis sans contrôle judiciaire.
Qu'il faut l'expliquer, Maître Batik. Ces deux gardes à vue sur lesquels on était très prudents hier et on a cessé de répéter qu'on ne savait pas le lien que ces deux personnes pouvaient avoir ou non avec cette affaire. Ils ont été relâchés hier. Aucun élément retenu contre eux. C'est classique. C'est-à-dire qu'en fait, on envisage toutes les solutions, des témoins, toute personne qui pourrait avoir des choses à dire. On va la convoquer, la placer en garde à vue éventuellement et l'interroger.
Oui, comme l'a dit Dominique Rizet, au départ, on pêche très large. L'idée, c'est d'avoir un filet assez grand pour attraper le maximum et puis après, on fait le tri. On est dans les premières minutes, dans les premières heures. Le temps joue contre nous quand on est enquêteur. Et donc, il faut essayer d'agir le plus efficacement possible. Et l'efficacité, elle passe aussi par l'appréhension de personnes sur lesquelles ne pèse finalement qu'un petit soupçon. En revanche, c'est pas parce qu'elles ont été mises en dehors de cause à l'issue de cette garde à vue. Je parle pas pour ce cas spécifique, parce que probablement que ces personnes n'ont rien à voir dans le dossier, mais de manière générale et structurelle, on peut très bien faire une levée de garde à vue et continuer à avoir un œil sur les personnes qui ont été relâchées en se disant peut-être qu'on n'a pas encore assez de preuves, mais en ayant un œil sur ces individus, bah peut-être qu'ils vont nous amener à d'autres pistes et à finalement d'autres manifestations de la vérité qui nous permettront d'avancer dans le dossier. la fin de la garde à vue. Ça veut pas du tout dire qu'on est mis hors de cause définitivement. On peut être d'ailleurs replacé en garde à vue sur le temps restant de la garde à vue, 3 mois, 6 mois, un an et demi après. J'ai déjà vu, moi, dans certains des dossiers que j'ai eu à traiter. Donc, à la fois, être placé en garde à vue, ça ne veut pas du tout dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. Et dans le même temps, avoir une levée de garde à vue, ça ne veut pas non plus dire qu'on est parfaitement innocent aux yeux de la justice. Il y a une enquête qui est présomption d'innocence, ça c'est évident, mais il y a une enquête qui est en cours, et en réalité, dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de questions et peu de réponses, les enquêteurs continuent à bosser sur tous les axes.
Question technique, maître. Alors, ce garçon, il était arrêté à minuit, il est arrêté au milieu de la nuit. Donc, c'est pas la procédure classique, puisque la garde à vue, c'est l'interpellation, c'est avant 21h, après 6h. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher à minuit?
En fait, il y a des possibilités dérogatoires dans certains dossiers, dans certains dossiers où la nécessité temporelle mérite que finalement prime sur le respect finalement global et général du code de procédure pénale. Donc c'est des choses qui sont prévues par la loi. On peut le faire dans ce cadre-là, mais vous voyez que très rapidement, une fois qu'on a passé un ou deux interrogatoires, oui, une ou deux auditions, très rapidement il a été relâché.
Est-ce qu'il a pu fournir avec son avocate qu'il a cité, il a pu fournir des horaires, il a pu fournir des lieux, on a pu vérifier que les horaires ne correspondaient pas. Son avocate nous a expliqué qu'il avait dîné chez son beau-père en compagnie de sa mère, puis qu'il est ensuite rentré au domicile de sa mère, et que donc en termes d'horaire strictement et de géographie, et j'imagine vérifié avec un bornage téléphonique, ça colle pas. Donc il a été mis en garde à vue à minuit 45, il en a sorti à 20h45 avec sa compagne.
Hypothèse pour l'instant refermée, avec évidemment toutes les réserves que vous venez d'émettre génériques. Ce qu'on sait, Pauline, c'est que tout ça se passe quand même en plein jour. Il est 15h15 quand elle sort de son établissement. Il faut aller très vite et on est en plein jour. C'est-à-dire que...
Oui, mais on ne le sait pas, pardon. C'est-à-dire qu'elle sort, elle ne donne plus de signe de vie entre 14 et 15 heures. Sa famille s'inquiète. Mais que se passe-t-il entre 15 heures et 1h50? Moi, je ne le sais pas. Enfin, c'est ce sur quoi travaillent les enquêteurs. Est-ce qu'elle a fait une rencontre malencontreuse? Est-ce qu'ensuite, elle a été placée dans un autre environnement, que son corps a été déplacé? Moi, je ne le sais pas. On l'ignore, et c'est exactement la lecture que doivent faire ces enquêteurs. Je vous disais, remplir cette frise chronologique, il a pu se passer plusieurs éléments extérieurs, peut-être plusieurs intervenants, je ne sais pas. On cherche on cherche des auteurs, on ne le sait pas. Donc il y a beaucoup, effectivement, beaucoup de questions encore.
Dans les profils généraux, encore une fois, en plein jour, à 15h, où on regarde tout l'environnement des gens qui sont autour de cette zone, ou des gens déshabitués, des habitants, pourquoi
bien
pas
sûr.
Ou quelqu'un qui passe par hasard. On s'est posé les mêmes questions sur le petit Émile, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que c'est dans l'environnement très proche de gens qui connaissent les lieux, ou est-ce que c'est quelqu'un qui passe par hasard?
Eh bien, les deux. Ouais. Tout est ouvert. C'est-à-dire, ça va être l'environnement propre à Louise, l'environnement urbain propre à l'établissement dans lequel elle était, voire en élargissant jusqu'à son domicile. Donc, toutes les personnes qui résident, qui sont là, qui d'habitude, qui peuvent croiser éventuellement Louise. Mais on a aussi ceux qui sont extérieurs à cet environnement urbain. Et là, on pense toujours aux prédateurs, quels qu'ils soient, d'opportunités ou organisés, c'est-à-dire avec repérage depuis un moment. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes d'enquêteurs qui se focalisent sur chacune des hypothèses, sans s'enfermer sur une hypothèse privilégiée, comme le disait Dominique tout à l'heure, pour éviter cet effet tunnel où on va se concentrer uniquement sur cette hypothèse, en oubliant de travailler sur les autres, au risque du dépérissement des preuves. Parce que il y a rien de pire. C'est le temps joue contre les enquêteurs si jamais ils ne travaillent pas de cette façon.
Et puis on va y revenir, mais c'est aussi un dossier où il y a la mort d'un enfant. C'est aussi quelque chose de très particulier. Il y a une pression particulière parce que ça, tout le monde est choqué et tout le monde se projette.
Tout le monde est choqué, tout le monde se projette. Donc évidemment, ça suscite un émoi et un retentissement très fort. Et pour la famille, c'est pas évident, parce que pour la famille, il faut le dire aussi, les enquêteurs ont un regard sur ce qui se passe dans la famille. Et ils ont un regard plutôt bienveillant dans l'ensemble, mais ils peuvent aussi avoir un regard suspicieux, et c'est leur travail de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette famille, quel est le contexte familial, quel est le rôle des uns des autres. Donc vous voyez, c'est un peu la double peine pour la famille pendant les 24, 48, 96 heures, où à la fois on est saisi d'un drame absolu, absolue. Et en même temps, les enquêteurs sont obligés de regarder ce qui se passe dans le foyer. Parce qu'on a vu parfois des infanticides, on a vu parfois des choses qui sont organisées par les membres de la famille, du foyer. Donc, ils sont obligés d'aller au bout des choses. Donc, vous voyez, c'est une période qui est extrêmement compliquée.
Vous restez évidemment avec nous, on va continuer à se poser toutes ces questions. Vous le disiez, il y a cette ombre qui plane de savoir ce qui s'est passé. C'est aussi un choc supplémentaire, une angoisse, une inquiétude supplémentaire pour tous les habitants d'Épinay-sur-Orge où l'émotion est absolument immense. On sera sur place dans un instant. Tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Il est 13h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes, l'impossibilité de comprendre ce qui est arrivé à la petite Louise disparue, vous le savez, à Épinay-sur-Orge. Dans la ville, tout le monde se pose énormément de questions et tout le monde a peur. On va retrouver Kevin Elias, vous êtes sur place, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de BFM TV. Kevin, il y a énormément d'hommages, d'émotions, de fleurs qui sont déposées pour rendre hommage à Louise. Mais il y a aussi beaucoup de questions, je le disais, dans la tête des habitants qui se demandent s'il n'y a pas un prédateur dans la ville.
Exactement, s'il y a un mot qui revient dans la bouche de tous ceux que nous avons rencontrés depuis ce matin et puis depuis hier, c'est celui d'inquiétude puisque, vous l'avez dit, hein, les meurtriers n'ont pas été retrouvés, sont encore dans la nature et ça c'est vraiment ce qui inquiète ici les habitants. Beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer étaient des parents d'élèves et me disaient ça aurait pu arriver à ma fille, à mon fils, ça aurait pu arriver à n'importe qui, ce qui est arrivé à Louise, la collégienne de 11 ans. Je vous propose d'ailleurs d'écouter certains de ces parents d'élèves que nous avons rencontrés dans le courant de la matinée.
Oui, on va souvent au parc et on n'ira plus au parc. Non, on n'ira plus. Moi, j'irai plus. Ou on ira à deux, ou à trois, ou à quatre. Moi, je ne peux plus voyager dans les rues.
Épinay, c'était calme.
Et ça devient une catastrophe. Eh bien, on a peur. Moi, j'ai peur. Je suis sortie, j'habite la rue là, et j'ai la trouille. J'ai 74 ans et j'ai peur.
J'espère qu'on va le trouver.
C'est ça la vie ? C'est ça le monde actuel ? Ben, moi, je suis contente d'avoir mon âge. Je ne voudrais pas être de l'âge des gamins.
Alors là, vous l'entendez, cette peur, cette inquiétude qui est très grande, mais surtout cette émotion qui est encore plus grande. Regardez, on voulait vous montrer cette image. Nous sommes à côté de l'établissement où était scolarisée Louise et regardez le nombre de fleurs, de roses, de bougies qui ont été installées et qui continuent d'être installées. Pour tout vous dire, nous sommes ici depuis 6h30 ce matin et depuis 6h30, beaucoup de monde continue de venir déposer ici des roses pour rendre un dernier hommage à Louise. Beaucoup d'habitants qui viennent ici, il faut le dire, les larmes aux yeux.
Kevin, s'il y a aussi cette mobilisation, ces hommages qui se multiplient, il y a eu un rassemblement hier, c'est parce qu'une bonne partie des habitants se sont réunis dès vendredi après-midi quand Louise a disparu et ont participé aux battues pour tenter de la retrouver.
Exactement, des battues qui ont participé effectivement au fait de pouvoir la retrouver. C'est grâce à ces battues que le corps de Louise a pu être retrouvé. On rappelle qu'il a été retrouvé aux alentours de 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Et ça après une longue journée d'enquête, de fouilles organisée par les forces de l'ordre. Puisqu'on sait que les enquêteurs, les forces de l'ordre ont été prévenus dès l'après-midi par les parents de Louise, inquiets de ne plus avoir de nouvelles d'elle. On rappelle, hein, la fillette avait quitté son collège sans plus donner de signes de vie dans le courant de l'après-midi. Alors d'importants moyens ont été engagés par les forces de l'ordre, par les policiers pour pouvoir la retrouver. Les habitants nous ont décrit un quartier, une ville complètement quadrillée par la police avec un hélicoptère qui survolait notamment les environs pour tenter de la retrouver. On sait que des appels ont également été lancés, beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux pour pouvoir retrouver cette collégienne. Et puis en début de soirée, c'est un chien d'une équipe cynophile qui a marqué dans un bois situé à quelques centaines de mètres d'ici. Et c'est dans ce bois où le corps de la petite Louise sera retrouvé quelques heures plus tard.
Merci beaucoup Kevin Elias avec Matteo Luxero pour toutes ces informations, ces hommages, ces fleurs qui sont déposées pour la petite Louise, pour sa famille. Marilyn Baranès nous a rejoint. Bonjour, vous êtes docteur en psychologie clinique, experte judiciaire. Faut réagir d'abord à l'émotion et à ce qu'on vient d'entendre, cette peur, et on va l'évoquer aussi sur le thème de l'enquête avec cette question d'un prédateur potentiel qui rôde. Mais là, il y a le choc, une enfant de 13 ans, insupportable, incompréhensible, et l'angoisse d'avoir quelqu'un en liberté.
Bon, je crois que là, on est effectivement dans un moment, j'ai envie de dire, vraiment paradigmatique de l'angoisse. Parce que la semaine dernière, il y a déjà eu un petit garçon,
Elias,
qui est décédé par des coups de couteau également et par un jeune. Là, on ne sait pas par qui. Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre de la psychose générale et au-delà de cette psychose, enfin ce qui va avec en tout cas, c'est l'inquiétude et le vide. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait à peine comment. Il va falloir reconstruire cette histoire. Et donc, on est dans un moment, en tout cas, psychique, général, de colère et d'inquiétude. Est-ce que c'est un prédateur ? Qui est-il ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un coup de folie soudain ? Toujours est-il qu'on se pose des questions. Et les questions de bon sens, j'ai envie de dire, d'une population générale, de parents, de mères, de pères, c'est de se dire, mais au fond, comment on va continuer à vivre ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ?
Et moi, parents, mais justement, ils nous disent, les parents interrogés, qu'ils vont changer leurs habitudes. Les enfants leur ont d'ailleurs dit, moi, je ne veux pas retourner au collège tout seul. Et donc, les parents disent, on va les accompagner. Mais lundi, la rentrée, demain, elle va être extrêmement difficile. Il y a une cellule de soutien psychologique qui est mise en place, mais elle va être essentielle.
Alors, elle est essentielle. Les CUMP, hein, les cellules d'urgence médico-psychologique, qui sont rattachées au SAMU des hôpitaux, du CHU, hein, de l'hôpital qui concerne à côté de Montjumeau, l'Essonne, enfin, en tout cas dans ce secteur-là, a été immédiatement alerté. Donc, ils ont probablement déjà commencé leur travail en allant sur place, en parlant au directeur d'école et en mettant en place ce qui va se passer demain. Ils sont déjà probablement, comment dirais-je, sur place et joignables. C'est-à-dire que pour les gens qui auraient besoin de parler tout de suite, ils sont là. Et demain, ils vont parler à l'ensemble des classe, à l'ensemble de l'école, parce que il est extrêmement important de verbaliser et de pouvoir dire pour ses enfants, pour ses jeunes, mais également pour ses parents. Donc, il va y avoir des consultations et des consultations à la fois groupales et à la fois individuelles.
Général, sur le terrain de l'enquête, quand il y a ce soupçon, cette hypothèse d'un prédateur qui rôde, qui donc pourrait s'en reprendre à un enfant. Ça change les choses ? On travaille différemment ?
Non, on ne travaille pas différemment, parce qu'il y a ce que l'on appelle l'émotion publique et l'émotion qui est portée par tout le monde, et il y a la nécessité de faire avancer l'enquête. On ne peut pas suivre uniquement l'émotion et se disperser. On est vraiment sur les hypothèses dont on parlait tout à l'heure, et chaque équipe se concentre sur ces hypothèses, parce que l'essentiel étant, c'est d'arriver à la résolution de l'affaire, et si prédateur, eh bien effectivement, arriver à le coincer avant qu'il ne récidive, si tant est qu'il soit toujours sur la même zone. Après, ça peut être quelqu'un qui est dans sa zone de confort et qui habite prédateur, mais dans la ville en question, ou les environnements de la ville. Mais derrière ça, cette émotion est souvent portée, on regarde vers l'extérieur. Certes, ça fait peur que ça soit un prédateur, mais c'est plutôt rassurant que ce ne soit pas quelqu'un qui soit au plus près de chacun, de son propre environnement, ou un habitant, ou etc. Donc, on se tourne vers ça, oubliant que parfois, et hélas, le nombre d'affaires l'ont montré, on est plus souvent sur du voisinage au sens large que sur du prédateur d'opportunité. Mais tout le monde travaille là-dessus.
Général, on a un meurtre, une enquête en cours, on est en zone police judiciaire, ce sera en zone gendarmerie, ce sera une section de recherche de gendarmerie. On a des gens qui ont peur. On a entendu cette dame qui dit « je préférais vivre à mon époque qu'avoir 11 ans aujourd'hui ». Et il y a un autre travail pour une autre police, ou pour une autre gendarmerie, parce que demain, quand les enfants vont retourner à l'école, et dès cet après-midi, d'autres policiers ou d'autres gendarmes font un autre métier.
Exactement. Et il y a aussi, c'est très certainement, la police municipale, c'est-à-dire, comme on dit d'une manière un peu commune, mettre du bleu sur le terrain pour rassurer tout le monde. Et c'est-à-dire sur ces parcours, que les parents, que les habitants puissent voir des policiers nationaux, puissent voir des policiers municipaux qui occupent le terrain, et eux, ils sont pour la sécurité publique, ils ne sont pas dans le cadre, comme vous le disiez, Dominique, dans le cadre de l'enquête judiciaire proprement dite, mais pour cette sécurité, tout le monde attend.
On a besoin d'aller voir.
Pauline, dans les éléments dont on dispose, il y a eu l'autopsie qui a eu lieu hier après-midi, on n'a évidemment pas le rapport complet d'autopsie, mais on a les premiers éléments, qu'est-ce qu'on peut dire de l'autopsie qui a été faite ?
C'est le parquet d'Evry qui nous donne les informations. L'autopsie de la victime permet de relever la présence de très nombreuses plaies commises par un objet tranchant dans des zones vitales. Ce sont les mots choisis du procureur d'Evry. Et à ce stade, il précise qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il y a des violences sexuelles qui ont été commises. Voilà, il va y avoir des résultats, j'imagine, plus approfondis. Est-ce qu'il va vouloir les communiquer ? C'est pas évident, parce que en général, il le garde justement pour l'enquête. S'il y a des traces ADN, ils vont essayer de remonter les fichiers, essayer de voir si ça match avec un individu. Enfin, voilà. Donc, en fait, on est vraiment. L'autopsie, elle est déterminante, mais je ne suis pas sûre qu'on ait les résultats complets à notre connaissance. Et c'est bien normal, c'est pour préserver l'enquête.
Ce qui alimente évidemment les nombreuses questions, parce qu'encore une fois, ça se passe en plein jour, à 15h. Il y a c'est l'enlèvement d'une petite fille, il y a une arme blanche qui a été utilisée, il y a plusieurs coups de couteau, on va dire ça simple, mais d'arme blanche, en tout cas d'objets tranchants, comme c'est dit par le procureur. Tout ça sont des éléments très effrayants.
Ce sont des éléments effrayants et imprévisibles. On ne peut pas l'imaginer, si vous voulez. C'est vraiment la définition du traumatisme, hein, c'est-à-dire quelque chose de brutal et imprévisible. Notre cerveau n'est pas en mesure de projeter des choses. Alors déjà, d'une part, que notre imaginaire ne peut pas spontanément imaginer. C'est-à-dire qu'on arrive à imaginer des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables seuls de créer parce qu'elles sont devant nous. Donc, cet imaginaire-là, brutal, imprévisible, va mettre les gens dans un état de sidération, dans un état stuporeux, c'est-à-dire quasiment catatonique. Hein, on ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que les enfants peuvent retourner à l'école ? Ils ne peuvent pas. Il va falloir les accompagner tout le temps. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quel âge ?
Et quels mots on choisit aussi pour expliquer à ces enfants le sort de leur amie collégienne ? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Comment ils vont faire pour expliquer ? Il y a un décès tragique, brutal, mais quels mots on pose là-dessus ?
Les mots, je crois qu'il faut rester simple et transparent. Donc, je crois que pour l'instant, il faut parler. Enfin, a priori, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire de folie. Alors, je ne parle pas de folie au sens
pénal
et donc de responsabilité, mais pour des enfants, de dire bon, voilà, ça existe. Et donc, il faut toujours faire attention. Effectivement, peut-être qu'il faut plus se promener tout seul. En tout cas, tant qu'on ne se sent pas suffisamment fort pour pouvoir se défendre. Et savoir que ça existe. Alors, ça existe. Et donc là, c'est là où il va falloir beaucoup travailler le discours avec les enfants pour montrer que ce qui existe n'est pas forcément quelque chose qui arrive, mais que ça existe. Comme alors, pour montrer des choses à des enfants, il faut souvent montrer les deux plateaux d'une balance. C'est-à-dire, il existe des choses terribles et il existe des choses merveilleuses. Et que on ne va pas forcément rencontrer dans notre vie que des choses merveilleuses ou beaucoup de fois des choses merveilleuses et on ne va pas forcément rencontrer des choses terribles. Mais on sait que dans l'absolu, ça existe.
Mettre dans un... En termes juridiques, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il y a un juge d'instruction qui devrait être nommé, qui devrait reprendre les investigations ?
Tout à fait. Là, je pense qu'on est sur le parquet, le ministère public qui a la main sur l'enquête, parce que là, il faut aller très vite et il est en lien direct avec les enquêteurs. Donc là, le temps presse et le temps court. Et très rapidement, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, grand maximum, on va basculer sur un juge d'instruction. Contrairement à ce que son nom indique, ça n'est pas un juge qui juge, c'est un juge qui enquête, c'est un espèce de super policier qui a énormément de prérogatives, pouvoir faire de la géolocalisation, pouvoir faire de l'exploitation de téléphonie, pouvoir faire des filatures, de la géolocalisation, etc., etc. Bon, tout un tas de prérogatives qui sont prévues par le code de procédure pénale. Et là, on rebascule dans le temps long, en espérant que d'ici là, la personne ait été là où les personnes aient été appréhendées. Et là, on rebascule sur une information judiciaire qui peut durer un an et demi, deux ans et demi. Ça peut paraître un temps long pour tous ceux qui nous regardent en disant « mais je comprends pas pourquoi l'enquête dure aussi longtemps pour des infractions comme ça » et puis on a l'impression que c'est une lenteur de la justice et qu'il y a une forme d'impuissance de l'État, etc. Pas du tout. Sur les dossiers criminels, sur les dossiers les plus graves, on estime que ce sont des dossiers d'une telle gravité que le législateur va laisser au juge d'instruction, au magistrat instructeur, un temps conséquent pour établir des faits pour établir une forme de manifestation de la vérité qui, si in fine, elle a appréhendé un ou plusieurs individus qui seront mis en examen, qu'ils puissent être renvoyés devant la cour d'assises avec des éléments suffisants et que le dossier soit le moins, le plus conséquent et le moins fragile possible.
Bah, maître, j'ai deux questions. Je reviens à cette garde à vue cette nuit des deux personnes qui ont été mises hors de cause. Donc, à minuit, on interpelle ce garçon et puis sa petite amie. Il est entendu une première fois dans la matinée. Donc, première question technique, est-ce qu'il peut être entendu hors la présence d'un avocat? Deuxième question, après, son avocate va venir l'après-midi et sa présence, visiblement, ou ses arguments vont être déterminants puisque c'est elle qui va dire aux enquêteurs, ce qu'a dit Pauline Revenat tout de suite, tout à l'heure, il dînait chez son beau-père avec sa mère, donc elle donne des éléments et ensuite il ressort. Est-ce que, alors, première question sur la garde à vue et ensuite sur, est-ce que simplement le fait que l'avocat dise ça au policier, ça suffit? Ou est-ce qu'eux vont tout vérifier?
Alors, c'est vraiment une excellente question à laquelle on est confronté au quotidien. Mmh. C'est-à-dire que à de très nombreuses reprises, j'ai des gens qui m'appellent au cabinet et qui me disent « J'ai été placé en garde à vue, j'ai été auditionné librement et je n'ai pas fait appel à vous parce que je suis innocent. » Et que dans l'imaginaire collectif, on se dit « Prendre un avocat, c'est déjà signer une forme de début de culpabilité. Ouais. » Pas du tout. Plus on est innocent, j'ai envie de dire, plus il faut prendre un avocat. Parce que l'avocat, il est là pour encadrer les choses, pour permettre à la personne qui est placée en garde à vue de ne pas perdre ses moyens. Vous connaissez tous ces dossiers, l'affaire Outreau et bien d'autres encore, où parfois on est confronté à des officiers de police judiciaire qui font leur travail. C'est pas un reproche.
C'est vrai qu'hier, il était effondré dans sa cellule, ce garçon.
Mais bien sûr, mais vous imaginez, vous êtes sans fenêtre, dans une cellule qui sent l'urine, qui vous êtes complètement sans temps, sans espace, sans rapport spatiaux, sans repères spatio-temporels. On vous interroge, on vous met sous pression. C'est le but de la garde à vue. Elle sert à ça.
C'est le boulot des policiers.
C'est le boulot des policiers.
Et des gendarmes.
Et donc, vous arrivez face aux officiers de police judiciaire et parfois, pour essayer de les convaincre que vous n'avez rien fait, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez commencer à dire n'importe quoi, alors même que vous êtes parfaitement innocent. Ça arrive tous les jours. Donc, pour répondre à votre question de manière très précise, est-ce qu'il est possible pour un individu qui est placé en garde à vue de parler sans la présence de son avocat? Oui, c'est possible. À partir du moment où on est majeur, dis-moi, je ne souhaite pas être accompagné d'un avocat. Je réponds à vos questions. Et ça, c'est parfaitement possible. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est une mauvaise chose. Pas simplement pour les personnes qui sont placées en garde à vue, mais même pour l'institution judiciaire, pour l'institution policière. Parce que quand il y a un avocat à côté, ce qui est dit a plus de poids que lorsque c'est dit sans la présence d'un avocat.
Général, pour conclure, on continue évidemment à suivre sur BFM TV l'enquête, mais à l'instant, Maître disait, l'enquête peut être très très longue. On a l'impression qu'on est dans un tout petit lieu, que tout est allé très vite, qu'il y a des caméras de vidéosurveillance à Épinay-sur-Orge. Mais ça peut, malgré tout cela, être très très long avant qu'on identifie la personne qui a fait cela.
Oui, ça peut être très très long. Si l'enquête ne montre pas de connexion directe, le temps de retrouver une personne qui est bien non identifiée par essence, eh bien ça va mettre un temps vraiment très très long. En plus, les expertises de bornage, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont nécessiter un travail pour les mettre au clair et qu'elles soient parfaitement compréhensibles. Et enfin, si jamais on a l'ADN de l'individu ou des individus, est-ce qu'ils appartiennent ou est-ce qu'ils existent déjà dans le fichier national ou pas? On voit que le temps, finalement, comme j'aime à le dire régulièrement, le temps du scientifique n'est pas le temps du médiatique. Et il faut laisser presque du temps au temps, pour, comme le disait tout à l'heure mon voisin de droite, si on veut qu'une instruction soit bien menée, il faut que tous les éléments soient étudiés et que lorsqu'on arrivera au prétoire, c'est-à-dire au moment du procès, eh bien, ça soit construit et on puisse y aller.
Il y a un autre indice, pardon, qui est déterminant, c'est que l'arme n'a pas encore été retrouvée. Oui. Donc, l'arme blanche. Donc, c'est probablement aussi ce que les enquêteurs cherchent ardemment sur le terrain.
On va continuer évidemment à suivre sur BFM TV cette enquête tout au long de la journée. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau. D'affaires suivantes, tout de suite, les invités de la semaine. Un moment d'hommage et de recueillement. C'est le moment que la famille du petit Émile attendait, le moment où elle pourrait lui dire un dernier adieu. Hier, les obsèques du petit garçon se sont déroulées à la basilique Sainte-Marie-Madeleine dans le Var. Une messe, une inhumation et un cri du cœur de la part de ses grands-parents. Le temps du silence, ont-ils dit à BFM TV, doit laisser place à celui de la vérité. Mais quelle vérité, Pierre-Emmanuel Bousset?
C'est l'image qui résume toute une tragédie. Le petit cercueil blanc contenant la dépouille d'Émile Soleil faisant son entrée dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine. À l'intérieur de l'édifice, 400 proches et des membres de la famille, notamment Marie et Colomban Soleil, les parents du petit garçon, ainsi que son grand-père Philippe. Une centaine d'autres personnes se sont également joints à l'office, tous réunis pour faire leurs adieux au petit Émile.
C'est bien triste, voilà, mais bon, les parents ont voulu que ce soit gai, habillé en clair.
À l'issue de l'office, le cercueil quitte la basilique en direction de la Bouilladis. C'est dans cette commune où vivent les parents d'Émile que l'enterrement du garçon se déroule, cette fois-ci dans la plus stricte intimité. Une étape importante pour le deuil des proches d'Émile, qui attendent toujours des réponses sur ce qui est arrivé au garçonnet.
Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité.
Pour éclairer les zones d'ombre, les autorités étudient trois pistes notamment. Une chute accidentelle, un homicide involontaire, par exemple, à la suite d'un accident de voiture, ou encore un possible crime d'opportunité. D'autres questions taraudent les enquêteurs. Comment les ossements du garçon de 2 ans ont-ils pu se retrouver à 2 kilomètres du domicile où il résidait? Mais aussi, à qui appartiennent les traces d'ADN masculin retrouvées sur les restes et les vêtements d'Émile? 19 mois après la disparition du garçon, l'enquête se poursuit.
L'enquête se poursuit. Quelle vérité sur la mort du petit Émile? On va y revenir avec Laurent Blanchard qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes journaliste au service reportage de La Provence. Vous avez suivi les obsèques, vous suivez cette affaire depuis le début, vous venez régulièrement nous voir. Merci beaucoup d'être là. Et puis avec nous également Maître Marc Gégère. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'avocat de la famille de Yanis Moret. Vous êtes auteur des Survivants aux éditions Mareuil. Yanis Moret, c'est ce petit garçon qui, 34 ans avant Émile, est mort quasiment dans des conditions similaires, à quelques kilomètres du Auvergnat. On va y revenir parce que c'est une des pistes aussi qui existe dans l'affaire du petit Émile. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, Laurent, vous étiez hier aux obsèques du petit Émile. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelle atmosphère? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Une grande émotion, forcément. L'image qui me restera, c'est le petit cercueil blanc, ouais, porté par ses parents, Marie Colomban Soleil, ainsi que sa marraine et son parrain. L'entrée dans la nef. Donc, voilà, il y a vraiment un moment d'une intense émotion. Et évidemment aussi la sortie de ce petit cercueil blanc. Donc, voilà, il y avait une chape de plomb dans cette église, dans cette basilique. Moment de très grande émotion.
Moment d'émotion évidemment très fort, sur lequel a plané le doute qu'il y a sur cette affaire. Cette enquête qui n'en finit pas, on peut dire. On va la reprendre dans le détail, mais les mots des grands-parents d'Émile hier à BFM D6 sont importants. Le temps du silence doit laisser place au temps de la vérité. C'est des grands-parents qui ont un temps, en tout cas, été questionnés, sur lequel beaucoup de choses ont été dites. Que ce soit eux qui prennent la parole hier, alors que l'enquête n'est pas close, juste après l'inhumation, ça a un sens particulier.
J'ai reçu personnellement aussi le document. C'est un communiqué qui nous a été transmis par son avocate, Isabelle Colombani. J'ai été surpris aussi du timing, mais pourquoi pas. Donc, ils ont voulu sûrement boucler cette séquence des obsèques pour parler enfin, pour briser ce silence. Comme ils le disent, ça fait 19 mois donc qu'ils sont dans l'attente d'une réponse, 19 mois d'incertitude, et forcément beaucoup de tension aussi autour de cette affaire. Forcément, voilà, donc ils aimeraient maintenant donc avoir des réponses formelles de la part des enquêteurs.
Mais c'est pas les parents d'Émile qui prennent la parole, ce sont les grands-parents.
Peut-être que c'est en raison de l'origine de l'affaire. Donc on rappelle que les grands-parents avaient la garde du oui, petit-fils. Peut-être qu'ils se sentent un petit peu responsables aussi à ce niveau-là. Ils ont voulu donc prendre la parole pour justement pouvoir étayer cette version.
Et peut-être aussi, comme le sous-entendait Philippe tout à l'heure, le grand-père, on l'a quand même clairement à un moment soupçonné. Oui. On s'est dit, voilà, il a travaillé dans une école, il était éducateur, il avait la main un peu leste parfois sur les élèves. Donc voilà, lui est en droit aujourd'hui de dire, il a été mis hors de cause, visiblement, en tout cas il a été mis hors de cause pour l'instant, est en droit de dire à la justice, vous vous êtes tourné vers moi maintenant, c'est moi qui me tourne vers vous en vous demandant de bouger un peu.
Oui, parce qu'il y a plusieurs pistes qui restent sur la table, donc toutes les pistes restent ouvertes. Hein, donc on a parlé de la version de l'enfant qui serait égaré, qui serait mort de mort naturelle, donc dans les sous-bois environnants du hameau. Il y a la version aussi d'un homicide involontaire, un accident avec dépassement
possible du corps. Ouais. Et peut-être aussi dans la version de l'accident domestique. Donc, toutes ces versions dont reste à l'étude. Et c'est vrai que ça laisse planer vraiment un doute, même au-dessus de la famille. On peut imaginer aussi qu'à l'intérieur de la famille, il y a aussi certaines tensions qui se mettent en place. Donc, avec justement donc cet épisode initial où les grands-parents avaient la garde de cet enfant, ils se sentent forcément responsables de certains côtés. Donc.
On va revenir sur les traces ADN, toujours en analyse. Avant cela, il y a une des pistes qu'il faut évoquer aussi, c'est celle d'un prédateur, quelqu'un qui pourrait rôder dans cette région, puisque je le disais, 34 ans avant Émile, le petit Yanis Moret, va disparaître. Vous allez nous raconter cette histoire. C'est à Ganagobi. Qu'est-ce qui se passe pour Yanis ?
En fait, ce matin-là, il est en train de jouer à quelques dizaines de mètres de son domicile avec ses frères et sœurs. Et puis l'idée, c'est de faire une cabane. Et à un moment donné, on est en défaut d'outils, donc les frères aînés vont chercher des outils à la maison. Ça prend à peine quelques minutes, et quand ils reviennent, ils ne retrouvent plus Yanis, qu'on ne retrouvera plus du tout. À partir de là, évidemment, il va y avoir une enquête qui va démarrer très rapidement, avec des battues qui vont être organisées. On va ratisser l'intégralité de la superficie et du coin dans lequel vraisemblablement il a disparu. On ne trouvera rien. Et ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que plus d'un an après, donc là on est en mai 89, en septembre 90, il y a un chasseur qui va se présenter au service de gendarmerie en disant « j'ai trouvé une paire de chaussures ». Et comme il était évidemment informé de l'histoire un an auparavant de la disparition de Yanis, il va les amener à la gendarmerie. Les gendarmes vont aller avec lui sur les lieux de découverte de ces chaussures et on va trouver des choses incroyables. On va trouver pliées, rangées, les affaires qui appartenaient à Yanis, c'est-à-dire son blouson, on trouve même son slip, une chaîne en or, et on va même retrouver une dent. Et on vérifiera que cette dent correspond à un enfant de 3 ans qui est l'âge de Yanis au moment de sa disparition.
Ceux qui ne connaissaient pas cette affaire, en vous entendant, sont frappés. Émile a 2 ans et demi, Yanis a 3 ans, il disparaît. On retrouve des éléments un an après, dans un bois. D'abord, les parents de Yanis, comment vivent-ils cette affaire, Émile ? Pour eux, ça doit être terrible.
Ben c'est vous imaginez ce que c'est que l'incertitude et le besoin évidemment de se raccrocher à un espoir qui est de plus en plus ténu, qui est celui de la survie de cet enfant qui aujourd'hui aurait plus de 35 ans. C'est très compliqué. Alors ça, c'est un peu en dents de scie. Il y a des moments un peu d'enthousiasme au moment où, par exemple, en 2022, le procureur de Digne-les-Bains décide de réouvrir l'enquête parce qu'il se rend compte que dans cette enquête préliminaire, il y a eu aucune étude d'ADN, mais à l'époque, il faut dire que le FNAEG n'existait même pas. Et donc, on va faire repartir l'ensemble de ces scellés avec l'espoir pour la famille de trouver quelque chose. On va trouver des choses, mais c'est des choses qui ne seront pas concluantes. Et après, il faut bien comprendre que malheureusement, quand des affaires sont mal engagées, parfois, ça se suit. Les éléments d'ADN vont être pour partie perdus, pour d'autres pollués. De sorte que même si Diane, qui est la division des affaires non élucidées de la gendarmerie, va donner un certain nombre de pistes, il y en a qui ne seront plus exploitables. Par exemple, de dresser un portrait robot ADN en fonction des éléments qu'il y avait, on ne peut plus le faire. On ne peut plus non plus vieillir le portrait de cet enfant aussi facilement qu'on aurait pu le faire. De sorte que, vous voyez, pour une mère, c'est il va peut-être y avoir enfin quelque chose, et puis non, il n'y a plus rien, et c'est ça depuis 35 ans.
Elle vous parle d'Émile ?
Oui, bien sûr, chaque fois qu'il y a une affaire de disparition qui est à peu près similaire, d'ailleurs elle n'est pas la seule à le faire, les services de police et de gendarmerie ont aussi fait ces rapprochements pour essayer de trouver des dénominateurs communs, des éléments qui pourraient amener les enquêteurs vers une piste. Pour l'instant, malheureusement, on n'en a pas.
Pour vous, même aussi longtemps, 34 ans, hein, 34 ans après, il peut y avoir un rapport entre l'affaire Yanis et Émile.
Je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, les similitudes dans les deux affaires questionnent. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un tueur en série qui aurait continué à agir pendant des décennies ? J'en sais rien, ça c'est déjà vu. Y compris avec des gens qui vont commettre un acte criminel et puis vont passer de nombreuses années sans rien faire. Et puis d'un coup, ça réitère les faits. Donc, toutes les hypothèses sont possibles.
C'est une hypothèse qui a été envisagée et c'est une hypothèse aussi que les habitants du Vernet ont en tête. Quand Émile est parti, ils ont tout de suite pensé à Yanis, parce que l'émotion avait été immense pour Yanis aussi.
Alors c'est une hypothèse qui a été évoquée, mais ça paraît peu probable, enfin, dans le, par rapport à la configuration du hameau, c'est un hameau qui est très resserré, donc on imagine mal un prédateur d'opportunité passer par là sans être vu. Donc ça a été retenu. Mais pour revenir au contexte par rapport à l'ambiance dans ce hameau, forcément les habitants y pensent. J'ai pu parler avec certains, ils ne sont pas sereins. Une habitante me disait que le soir elle sortait son chien et elle avait toujours cette image derrière elle d'un prédateur potentiel, d'un criminel potentiel qui rôdait dans la commune. Donc voilà, donc il y a ce contexte qui est assez évident.
Après, Laurent, ouais. dans l'affaire Emile, ça peut être, il y a pu se perdre. Dans l'affaire Yanis, c'est clairement un meurtre.
Oui.
On trouve des vêtements pliés un an après. Oui. Les vêtements ne sont pas arrivés là par hasard.
Non, et c'est vraiment ça qui est très perturbant dans cette affaire. Qui est une disparition sèche, si je puis dire. On en a déjà vécu, il y en a d'autres. Mais un peu plus d'un an plus tard, il y ait ces habits qui soient ramenés.
Enfin, parce que l'affaire criminelle, quoi.
Ils n'ont pas pu être oubliés par les enquêteurs évidemment. De prime abord en 89. C'est absolument impossible vu la manière dont c'était rangé. Donc, qu'il y ait un an plus tard quelqu'un, vraisemblablement, qui a quelque chose à faire avec la disparition, voire le décès de Yanis, revienne porter ces affaires comme ça, c'est quoi? C'est du remords? C'est
de la mise en scène.
Oui, on ne sait pas ce que ça peut représenter.
Mais c'est que par rapport à la mise en scène, on peut imaginer que le crâne qui a été retrouvé sur le sentier le 30 mars 2024, c'est aussi une mise en scène quelque part.
Et on rappelle
qu'il y a certaines similitudes à ce niveau-là.
Des analyses ADN complémentaires qui ont été demandées au professeur d'Outremepuche à Bordeaux sur les ossements et les vêtements d'Émile. C'est en cours, ça a priori été remis et on attend d'en savoir plus. Mais l'enquête se poursuit. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau d'Affaires Suivantes ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain, Dominique, pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Bon dimanche.